France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Disparu en 2024, Pierre William Glenn a été, des années 60 aux années 2000, l'un des plus grands chefs opérateurs français, l'un des plus demandés, ce dont témoignent les noms des réalisateurs avec lesquels il a travaillé, Truffaut, Rivette, Téchiné, Giovanni, Costa Gavras, Vadim, Lelouch, Corneau, Piala et beaucoup d'autres encore. En 1980, peu après la sortie de « La mort en direct » de Bertrand Tavernier, dont il avait signé la photographie, il était l'invité de l'émission « Agora ». Réalisateur de plusieurs films, dont certains révélaient sa passion pour la moto, mais directeur de la photographie avant tout, Pierre-William Glenn rappelait à Gilles Lapouge en quoi consistait ce métier, souvent mal connu du grand public. En évoquant comment il s'y était formé, il décrivait les exigences de son travail et la manière dont, d'un film à l'autre, il l'abordait. Agora, avec Pierre-William Glenn, une émission diffusée le 29 juillet 1980 sur France Culture.
Agora, une émission de Gilles Lapouge réalisée par Jeannine Chollet. Avec aujourd'hui Pierre-William Glenn, directeur de la photo.
Quand un film sort, on parle beaucoup du metteur en scène, on parle beaucoup des comédiens, d'une part. D'autre part, on parle beaucoup des photographes. Il y a le nom d'un certain nombre de photographes qui est illustre, des hommes comme Bouba, etc. Il y a même des livres consacrés aux photographes et c'est très légitime. En revanche, des opérateurs de cinéma, on n'en parle pas beaucoup, je trouve. Et moi, je voulais un petit peu savoir ce qu'est un opérateur de cinéma. Et il se trouve que j'ai assez admiré deux films récemment. L'un qui est, les deux de Bertrand Tavernier d'ailleurs. L'un, une semaine de vacances plutôt. L'autre, La mort en direct, avec Romy Schneider. Et j'ai demandé quel était l'opérateur de ces deux films, parce que je trouve la photo très très belle, mais belle pas au sens esthétique du mot, enfin quelque chose de tout à fait différent de cela. On m'a dit c'est Pierre-William Glenn. J'ai demandé à Pierre-William Glenn s'il voulait bien venir à Agora, et il a accepté. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous allons parler un petit peu de son métier. Nous allons essayer de savoir un petit peu ce que c'est qu'un opérateur de cinéma, qu'est-ce que ça veut dire. Et la première question qui est... comme ça, purement factuel. Comment est-ce qu'on devient vous avez suivi une école, comment ça se fait?
Oui, c'est-à-dire, évidemment, j'ai préparé les grandes écoles de techniques, c'est-à-dire les centrales polytechniques. J'ai fait Maths-Sup, Maths-P. Ensuite, j'ai bifurqué vers le cinéma en passant le concours de l'IDEC, tout simplement. Je suis rentré donc en section prise de vue, puisque j'avais plutôt un background physique, mathématique.
Et parce que ça suppose un background mathématique important?
La photo est quelque chose de technique, oui. La photo, c'est-à-dire un directeur photo, est le responsable de toute l'équipe technique, c'est-à-dire des machinistes et des électriciens. Donc c'est quelque chose qui est la photo en elle-même, c'est-à-dire la manipulation des caméras, quelque chose de technique. D'un point de vue strictement professionnel, on est d'abord deuxième assistant, ensuite premier assistant, ensuite on est ce qu'on appelle cadreur. C'est-à-dire le monsieur qui est derrière la caméra, et ensuite on passe directeur dans la photo, c'est-à-dire celui qui est responsable en fait de l'image du film.
Oui, de la totalité.
De la totalité d'abord de l'équipe technique, qui est une responsabilité technique, et de la qui est responsable d'un point de vue artistique par rapport à un projet, c'est-à-dire un projet photographique.
Et en revanche, après le tournage, c'est-à-dire au moment du montage, vous n'intervenez plus?
J'interviens pas, mais j'ai la particularité personnellement de pouvoir suivre, d'aimer les films que je fais et donc d'aller voir, de rester, pas en rapport avec le montage, mais je vais au montage. Oui. Voir ce que devient ce que j'ai fait, que ça m'intéresse.
Est-ce que vous êtes surpris parfois quand vous voyez, alors pas au niveau du montage, au moment des rushs, le soir, de ce que vous avez fait?
Le problème d'un bon opérateur, c'est de ne pas être surpris, c'est-à-dire à partir d'un projet photographique, de contrôler, d'arriver à savoir ce qu'il a avant de voir les rushs.
Alors, mais la un très bon opérateur, ça serait pas celui qui serait surpris quand même. Je veux dire, comme un poète, par exemple, il fait des mots, il agence des mots, et puis il y a quelque chose de plus que ce qu'il a voulu mettre.
C'est pas une notion technique. Je suis très souvent surpris, mais alors j'ai la particularité aussi de faire le cadre. C'est-à-dire que je suis quand même le premier spectateur d'un film. C'est-à-dire qu'avant que le metteur en scène l'ait vu, je sais la forme qu'il a quand je regarde dans la caméra. Et je suis donc le premier témoin. Et les émotions que les gens retrouvent au rush, si je suis vraiment dans le film, si je suis en rapport avec ce que je filme, normalement, je les éprouve sur le plateau. C'est-à-dire que je suis un technicien de tournage, en fait. La surprise vient souvent, des fois, du montage. C'est-à-dire la manière dont les choses qu'on a ressenties au tournage est manipulée, interprétée et traitée. Ça, oui. Mais des émotions au rush, j'aime bien les retrouver quand je les ai au tournage.
Oui. Pierre-William Gaine, j'ai parlé donc des deux films de Tavernier, mais vous avez tourné bien d'autres films, évidemment. Vous m'en citez quelques-uns pour un petit peu voir l'échantillon ou le style des films auxquels vous participez.
J'ai fait des films très très différents. J'ai commencé en 69 à faire un film pour un réalisateur américain qui s'appelait Goldman, qui était un type de la nouvelle vague new-yorkaise, qui avait fait Echoes of Silence. J'ai fait Wheel of Ashes, Roue de cendre, qui était un film très intéressant, noir et blanc, ce qui m'a fait commencer. J'en étais deux à l'époque. Après, j'ai fait un film avec Marin Karmitz qui s'appelait Camarade. Et puis, alors après, j'ai sur uniquement une espèce de quelque chose qui s'est fait autour de moi, de mon nom. J'ai eu de la chance d'être mal par la critique et j'ai fait des films avec Giovanni. J'ai fait tout de suite. C'est le premier grand film important que j'ai fait en 70, où j'avais beaucoup de moyens, une équipe d'électriciens importante, des gros moyens. J'ai fait trois films avec François Truffaut. J'ai fait un film avec Jacques Rivette. J'ai fait deux films avec Yannick Bellon. J'ai fait deux films avec Joseph Losey. J'ai fait quatre films avec Bertrand Tavernier. J'ai fait trois films avec Alain Corneau.
Oui, ça fait beaucoup.
C'est très varié. Oui, j'ai fait un film avec Vadim. J'ai fait un film américain avec un acteur américain qui jouait dans La Fureur de Vivre, qui s'appelait Corey Allen, il y a deux ans, avec Mia Farrow, qui s'appelait Avalanche. Pas un très bon film, d'ailleurs. Et c'est très varié.
Est-ce que vous avez l'impression qu'on peut parler du style d'un chef opérateur? Comment vous appelez votre nom exact, c'est quoi?
Pierre-William Glenn.
Non, le nom, ça je sais, je vais dire le titre exact.
Le chef opérateur, c'est soit le chef opérateur, soit le directeur de la photographie.
Directeur de la photo. Alors, est-ce que vous avez l'impression qu'on peut parler du style d'un directeur de la photo, ou bien il se modèle?
Pour moi, il y a effectivement des opérateurs qui ont des styles, mais pour moi, c'est très péjoratif. C'est-à-dire qu'un opérateur doit pouvoir tout faire. C'est-à-dire qu'on ne tourne absolument pas de la même manière avec Costa Gavras, à qui j'ai fait État de siège, et avec Yannick Bellon, à qui j'ai fait La Femme de Jean. C'est deux choses tout à fait différentes. Et l'important, c'est la relation. C'est-à-dire que la photo, elle est uniquement dans la relation. Il n'y a pas de photo en tant que telle. C'est-à-dire très souvent, les gens louangent la photo des films que j'ai fait pour critiquer la mise en scène, en disant que, et pour moi, j'essaye de ne pas fonctionner de manière dissociée et de travailler dès la conception d'un projet, c'est-à-dire dès le scénario, sur un principe de photo.
C'est-à-dire que vous pourriez difficilement travailler avec un metteur en scène auprès de qui vous n'auriez pas une relation chaleureuse.
Mais je ne travaillerai pas, ça m'est souvent arrivé, je ne travaillerai pas, mais je reconnais que ça c'est un privilège qui m'est donné de par le fait que, disons, maintenant j'arrive à être assez connu et que j'ai beaucoup plus de propositions de films que de temps disponible. Mais je refuse. Les films, on dit, c'est des histoires d'amour, et c'est vrai que c'est... Un film est un prototype, c'est fait qu'une fois. C'est-à-dire, moi, je travaille, et c'est en ça que les films sont des choses toujours différentes, toujours nouvelles, c'est qu'on fait qu'une fois. Hein. On fait quelque chose à un exemplaire. Tout ce qui touche à la production, qui tient au laboratoire, qui fait un travail très important avec le réalisateur, est moins intéressant parce que c'est pas nouveau. C'est-à-dire que ça tient à la reproduction. On fait les choses à une fois. En ce sens-là, c'est quelque chose de très artistique.
Le scénario aussi, ça compte pour vous, ou bien
ça compte, c'est très important. Je suis plus sur l'instinct des rapports, parce que je suis plus sur le rapport évident avec un metteur en scène que sur un scénario. C'est que il m'est arrivé de travailler avec des metteurs en scène qui n'avaient pas un scénario qui me semblait formidable, sur un rapport immédiat qui était très très bon, et l'inverse. Il m'est arrivé d'avoir très très bon scénario, avoir un mauvais rapport personnel d'abord, et penser que le scénario étant tellement intéressant, je pouvais le faire. Mais en tout cas, un metteur en scène qui me semble pas honnête, qui me semble se prêter, tout ça, je préfère éviter.
Vous préférez éviter.
C'est-à-dire, je fais, j'ai la chance de pouvoir faire ce métier pour des bonnes raisons. Enfin, en tout cas, j'espère. Je me mets complètement dans les films que je fais et j'aime les films que je fais.
Bien choisi sur un autre cas. Vous avez lu un scénario, il vous plaît, vous connaissez le metteur en scène, vous entendez bien avec lui, vous faites les repérages, etc. Et puis vous tournez, mais il y a un des acteurs importants, ou une actrice, peu importe, vous ne le sentez pas très bien, ou vous le détestez, supposons, ou lui vous déteste.
Oui,
ça fait des problèmes.
Oui, ça fait des problèmes, oui.
Non, mais des problèmes, bien sûr, au niveau de la vie quotidienne, mais je veux dire, au niveau de la photo elle-même.
Oui, ça fait des problèmes, oui. C'est-à-dire qu'on dit, et ça c'est un problème, on dit qu'il y a une relation, je lui dis toujours, ces relations affectives, disons, amoureuses, ça peut être pris de manière péjorative. Mais les gens derrière la caméra ont un rapport très privilégié, et c'est l'histoire du cinéma, en fait, avec les gens qui sont devant. Et pour moi, il est nécessaire d'être avec les gens qui sont devant, de manière, disons, quasiment abstraite. Ça ressemble à l'art martial japonais, si vous voulez. Mais c'est vrai qu'on a besoin d'être ensemble. On a besoin, les gens devant, on a besoin d'être avec les gens qui sont derrière. Et quelqu'un que j'aime pas, c'est un problème. Il m'est arrivé de refuser un film parce qu'il y avait vraiment une actrice que je pouvais pas voir.
Ah bon ?
Oui, ça m'est arrivé. Enfin, je vous dis, ça c'est un luxe que je peux me permettre. Mais c'est un vrai problème, c'est-à-dire que ça fausse le rapport avec le metteur en scène, ouais, complètement. Mmh. Et alors, c'est toujours cette idée des opérateurs qui sont amoureux des actrices, qui est une idée qui est fausse quand elle est prise au sens premier, mais qui est complètement vrai. Il y a des gens qu'on a envie d'éclairer, qui sont des gens qui brillent, à mon avis. Ça, c'est pour moi quelque chose qui est évident. Et puis, il y a des gens qui brilleront jamais. Et puis, il y a des gens qui sont pas faits pour ça. Et c'est un vrai problème. Oui, j'ai eu des problèmes avec des metteurs en scène, avec des actrices et des acteurs que je vois pas, que je sens pas. Surtout dans le cinéma moderne qu'on fait, qui implique une énorme concentration d'énergie dans peu de temps. Puisqu'on fait un cinéma en France qui n'a pas les moyens de ses ambitions.
Il y a un autre cas. Le metteur en scène, vous entendez bien avec lui, mais il vous dit, est-ce que tu peux faire ceci, prendre ce paysage, n'importe quoi. Et vous trouvez que c'est pas bien, c'est pas une bonne idée. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Vous négociez?
Ce qui se passe dans ces cas-là, c'est toujours des négociations. C'est-à-dire que généralement, on dit on le fait, tu l'as, je le fais, je pense pas que c'est une bonne idée, je le fais, tu l'auras, tu t'en serviras ou pas. Mais je donne toujours mon avis, oui. J'ai un rôle finalement important sur un tournage, puisque l'opérateur, c'est celui qui décide de ce qu'on verra ou de ce qu'on verra pas. Tant par l'idée du cadre, ce qui est dedans et ce qui est pas dedans, et l'idée de ce qu'on voit, c'est-à-dire la valeur des couleurs et la densité des valeurs de ce qui sont présentées à l'image.
Vous parlez des arts martiaux tout à l'heure, c'est que vous les pratiquez?
Oui.
Lesquels?
J'ai fait 6 ans d'aïkido, c'est un art martial japonais qui fonctionne autour du cercle. Et je pratique maintenant depuis 6 ans le karaté, régulièrement. Je fais du karaté tous les jours, ce qui est très, pour moi, une manière très importante d'avoir quelque chose à côté du cinéma, très important. C'est une manière de pouvoir être intelligent et violent, et de contrôler les deux, c'est très important pour moi.
Même dans votre travail, vous considérez que c'est important?
Très important, oui. C'est très important, ne serait-ce que par l'aspect, disons, tout simple, du fait qu'il faut être dans une excellente condition physique pour faire du cinéma, comme je le fais, c'est-à-dire d'être disponible. Le problème de mon métier est d'être disponible. Et c'est vrai que c'est une hygiène physique et intellectuelle qui est très 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 bonne pour moi et indispensable pour moi, le karaté.
Vous avez fait aussi un long métrage sur les motos, hein? C'est-à-dire que vous faites de la moto aussi?
Oui. De moins en moins, parce que je suis de plus en plus en voyage. Mais je fais de la moto. Oui.
Et un long métrage, pas forcément sur la moto, un long métrage de fiction par exemple, ça vous fait pas rêver?
Si, j'ai peur des exigences qui seraient les miennes à ce moment-là. C'est-à-dire que je peux être très exigeant. J'ai un statut qui ressemble à celui d'un ingénieur, c'est-à-dire qu'à partir d'une idée abstraite, incarne les choses. J'ai un statut de quelqu'un qui est pratique et qui fonctionne, qui est pragmatique, si vous voulez. Et j'ai peur de l'abstraction d'une certaine manière, c'est-à-dire que j'ai fait un long métrage dont j'ai eu énormément de mal à sortir, parce que j'ai eu un film qui dans sa version définitive faisait 4h20 sur les motos, qui avait pas d'intrigue, qui était extrêmement ambitieux, qui avait l'ambition de raconter la vie d'une dizaine de personnes qui tournent autour de la compétition moto. Ce film-là durait 4h20, était strictement inexploitable, j'ai dû faire une version et j'ai peur de moi-même par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il faudrait... La réalisation m'intéresse, mais je réalise au stade où je suis sans réaliser. C'est-à-dire que je donne des possibilités de mise en scène sans être une manière de ne pas penser à soi, de faire ce que je fais. C'est une manière d'être disponible pour les autres.
La qualité du metteur en scène, mis à part alors l'aspect sentimental, enfin le personnage même, mais je veux dire son professionnalisme. Il y en a certainement qui connaissent mieux la technique qui est la vôtre, par exemple, que d'autres. Est-ce que ça influe pour vous? Est-ce que vous préférez un metteur en scène un peu vierge par rapport à la photo, ou au contraire un homme très compétent qui, par exemple, est-ce que, supposons, moi je voudrais faire une mise en scène, je n'y connais rien, et est-ce que vous pourriez la faire?
Non, c'est vous qui la feriez. Je vous donnerai les moyens de la faire, mais l'important, c'est le projet. L'important, c'est ce que vous voulez dire. Et la manière de le dire, c'est une chose qui dépend de la relation qu'on a. Il y a des metteurs en scène qui n'y connaissent strictement rien, des metteurs en scène connus qu'on ne peut pas citer, qui n'y connaissent strictement rien. C'est-à-dire pour qui la technique est est quelque chose de tout à fait ténébreux et qui font des films formidables. Il y a des gens qui sont de super techniciens, qui peuvent exactement déterminer un cadre à partir de la focale à 20 cm près, et qui font des films très mauvais, parce que je suis cinéphile, je vais au cinéma. Et je crois pas que, généralement d'ailleurs, les metteurs en scène les plus techniques cherchent un refuge dans la technique pour ne pas avoir de rapport avec les acteurs, et les metteurs en scène les moins techniques sont des gens qui ont des rapports extrêmement profonds et avec les acteurs. Alors la technique est quelque chose qui est généralement embarrassant. Il y a des metteurs en scène techniques, il y a les metteurs en scène visuels, il y a les metteurs en scène extrêmement visuels, et les metteurs en scène abstraits. Mais moi, j'essaie de pas me spécialiser et de ne pas dire il est pas technique. Avec un metteur en scène non technique, je dois être disponible pour amener quelque chose qui l'est. Et avec un metteur en scène qui est évidemment technique, eh bien je dois faire ce qu'il me dit.
Oui. Les repérages avant le film, avec le metteur en scène, par exemple, mettant La mort en direct, c'était en Écosse, je crois.
Oui, c'est un choix de Bertrand, c'était un choix tout à fait délibéré et disons, il a plutôt insisté pour ses décors, puisque c'est quelque chose qu'il a monté sur 2 ans et demi avec énormément d'énergie et d'obstination. Et il tenait absolument à ces paysages d'Écosse, oui.
Alors comment vous faites le repérage? Vous partez avec lui et puis
Il y a un pré-repérage qui est fait généralement par un assistant qui travaille entre 1 et 2 mois pour savoir nous donner un choix pour chaque décor entre 3 ou 4 ou 5 possibilités. Ça dépend des moyens du film.
C'est un gros travail, ça?
C'est un gros travail, oui. Et alors c'est pareil, ça implique une profonde compréhension du sujet. Et du metteur en scène. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est on dit, je crois qu'il y a c'est un scénariste qui avait dit que le premier interprète du film, c'est le metteur en scène, mais pour moi, c'est quelque chose qui est vrai aussi.
Oui.
C'est-à-dire que c'est donner à voir à quelqu'un ce qu'il veut voir. Encore faut-il qu'il veuille voir quelque chose, parce qu'il y a aussi des metteurs en scène qui ne veulent rien voir. Autre chose. Voilà.
Tout à l'heure, je parlais de la photo. On parle beaucoup de photos. Il y a beaucoup d'articles, de revues sur la photo, des photographes aussi. Vous aimez la photo, ou bien c'est vraiment un art totalement différent, un travail totalement différent de celui que vous exercez?
C'est totalement différent. C'est-à-dire que c'est totalement différent. La peinture et la photo sont des choses que les opérateurs devraient, à mon avis, plus fréquenter. C'est-à-dire les expositions, ce que j'essaye de faire dans la mesure de mon temps. La peinture, il y a beaucoup de choses à apprendre sur les compositions de lumière. Mais le problème du cinéma, c'est que ça bouge. Et qu'il est beaucoup plus, je dirais pas difficile, mais il est totalement différent d'éclairer quelque chose qui bouge. Et des gens qui bougent. Alors, il y a toujours, c'est le vieux dilemme des opérateurs de cinéma, à savoir, on éclaire un décor, on n'y touche pas, ou on éclaire les acteurs. C'est deux principes de lumière qui sont différents, et trouver la relation entre ces systèmes de photos, c'est-à-dire l'éclairage des décors et l'éclairage sur les gens, est tout le problème de la photo. Maintenant, c'est deux choix généralement très différents. Il y a aussi l'idée de voir tout, généralement sur les choses, quand ça se passe sur les acteurs, sur un type de cinéma. Mmh. Et il y a l'idée des films d'atmosphère alors ça, quand on met une vedette dans ce problème, il y a toujours à trouver des solutions particularisées.
Mmh. Vous faites de la photo, vous, par ailleurs? Non. Pas du tout.
Non, je fais des photos. Non, pas du tout. Non, je fais des photos. J'ai fait très souvent les photos de repérage. Je dis, c'est une conception qui est tout à fait différente. Par contre, j'achète bien sûr, ça fait partie de mon travail, tous les hebdos et mensuels de photos.
Est-ce que vous rêvez parfois à d'autres cinémas que le cinéma français? Je veux dire, le cinéma français est quand même, dans l'ensemble actuellement, plutôt intimiste. Hein, dans l'ensemble, il me semble. Il y a aussi, alors, je ne sais pas, est-ce que vous, ça serait pas, moi je ne sais pas si j'étais à votre place, il me semble que je rêverais de tourner un western, mettons.
Oui, mais moi je
demande... les choses les plus excitantes du monde, non ?
Moi je demande que ça, bien sûr, mais le problème c'est que le cinéma français est condamné à l'intimisme par le manque de moyens, le manque de public. C'est-à-dire que le public du cinéma français, c'est le public de la France. C'est pas un public international et on théorise sur un cinéma intimiste alors qu'il est difficile de penser à autre chose. C'est pour ça qu'un film comme L'amour en direct est pour moi un film fondamental, très très important, parce que sur la, disons, la grandeur du sujet, c'est pas péjoratif, la grandeur, et l'idée de sortir des problèmes du couple ou du couple à 3 ou à 4 ou à 5, des problèmes qui sont traités de toutes les manières possibles et sous tous les angles par le cinéma français, l'ambition d'un film comme L'amour en direct est formidable, formidable. Oui. L'ambition d'un film qui n'a pas été très défendu par la critique comme La Menace ou Police Python, c'est des films qui me semblent complètement formidables sur l'ambition, sur l'idée de sortir, sur l'idée de sortir de ça. Alors, tourner un western, c'est moi mon metteur en scène préféré, ça fait toujours rire beaucoup, c'est Peckinpah. J'ai vu tous ses films 5 ou 6 fois. Et l'idée de tourner un western, ça serait pour moi formidable. Je reviens d'Amérique où j'ai tourné en Arizona une publicité très chère, et où il tournait un western américain, Lone Ranger, un remake, c'était complètement formidable pour moi à voir. Oui. Formidable, ouais. Il y avait une équipe de 150 personnes, c'était formidable. Mais c'est très contraignant alors, pour la mise en scène. Là, ça demande vraiment des techniciens, ça demande vraiment des metteurs en scène terribles.
C'est-à-dire que les équipes françaises, apparemment, ne seraient pas capables de faire ça.
Si, on est capable. Si on est condamné à être intelligent en France. C'est-à-dire qu'on est condamné avec des moyens très réduits par rapport aux Américains, à trouver des solutions intelligentes pour pallier au manque évident de moyens. J'ai fait un film de série B en Amérique, Avalanche, où ce qu'on me donnait en s'excusant comme moyen était 3 fois supérieur à ce qui existe ici sur un film de Verneuil.
Parce que vous tournez également des films publicitaires ?
Oui, c'est très...
C'est amusant, ça ?
C'est très amusant, oui. Ah oui. C'est très amusant, c'est très technique. Et les gens qui paye ces films, qui coûtent beaucoup plus cher que les films qu'on fait. Si ça durait 1h30, ça coûterait beaucoup plus cher. C'est toujours des films de l'ordre de plusieurs milliards, ce que vous voyez à la télévision. Ils sont très, très exigeants sur des choses extrêmement précises. Alors, sur la publicité, je vais pas faire le procès de la publicité ici, puisque c'est pas forcément quelque chose de très intelligent. Sur les problèmes techniques que ça pose à des gens comme moi, sur les gens d'image, c'est très important. J'ai appris peut-être plus là que sur les longs-métrages. En long-métrage, je dois avoir tout de suite une solution. Oui. En long-métrage, sur une scène, sur un type de photo, je dois avoir une solution. On n'a pas le temps. On n'a pas assez de temps pour le faire. Sur les publicités, on apprend toujours des choses. J'ai fait une publicité hier soir, cette nuit, là, très très compliquée, et c'est très intéressant.
Et vous apprenez toujours ? Vous continuez d'apprendre ?
On apprend toujours, mais c'est pour ça que le métier... C'est pour ça que c'est sûrement... Pour moi, c'est le plus beau métier. Peut-être la musique est plus intéressant, mais c'est un métier où j'espère pouvoir apprendre à 50 ans.
La technique bouge aussi ou pas ?
La technique bouge énormément, oui. Ah oui. Et il faut la faire bouger. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'acquis. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a rien d'acquis. Là, maintenant, il y a 10 ans, le type de caméra qu'on a maintenant aurait fait un petit peu... on aurait expliqué qu'on allait vers le type de caméra qu'on utilise maintenant, le type de moyen. La couleur, on en est au début.
Oui, et pourtant, quand on revoit certains vieux films, on est stupéfait par la beauté de la photo. Je ne sais pas si on voit Loulou, si on voit des films comme ça, ou Eisenstein ou d'autres. C'est stupéfiant comme beauté. Il y avait une technique rudimentaire par rapport à
Non, parce que Kubrick, les films de Kubrick sont faits avec exactement l'équivalent de ses moyens. Ils sont des films qui sont tout à fait comparables. Un film comme Orange Mécanique, un film comme Barry Lyndon, sur la photo, est un film qui est aussi travaillé. C'est un film sur la peinture, en fait, ce qui a été remarqué un peu évidemment. C'est un film dont la beauté de photo est au moins équivalente, pour moi, à mon avis, que celle des films noir et blanc dont on parle toujours. Plus, la technique sur le noir et blanc, c'est vrai que c'est une technique tout à fait différente. C'est-à-dire éclairer un film en noir et blanc et un film en couleur est une chose tout à fait... Un bleu et un vert ne se distinguent pas en noir et blanc. En couleur, vous avez évidemment le bleu et le vert. Les opérateurs de talent, les types qui travaillaient effectivement avec les gens que vous citez, essayaient de différencier, c'est-à-dire de faire des films en couleur avec des noirs et blancs, c'est-à-dire sur des plages de gris, et trouver ce qui est maintenant intéressant à trouver en couleur, c'est-à-dire essayer de trouver en noir et blanc des demi-teintes, des gammes de gris, faire des films en couleur en noir et blanc. On peut maintenant faire des films en noir et blanc en couleur, ce qui est un... On m'a posé le problème plusieurs fois. Oui. On peut le faire. Et on dit qui peut le plus peut le moins, ce qui est très simple, mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut faire des films en noir et blanc complètement en couleur, c'est sûr. complètement, ouais. Ça s'est fait d'ailleurs. Ouais. Et on en est tout à fait au début. On peut penser à des pellicules photos qui soient beaucoup plus rigides, beaucoup plus sensibles, beaucoup plus fines. On en est encore qu'au début. Il y a plein de domaines à explorer. Et je crois qu'il y a des labos en France qui sont prêts à le faire et il y a des gens qui sont prêts à le faire. Il faudrait pouvoir les metteurs en scène qui soient concernés par ce type de problème.
Vous avez une espèce d'international des photographes de films?
Non,
il n'y a pas des congrès pour apprendre les techniques?
Non. On a en France la CST, la Commission supérieure technique, dont je fais partie, qui est quelque chose qui nous tient au courant de ce qui se fait comme dernière technique. Il n'y a pas d'association, malheureusement. Il n'y a pas d'association d'opérateurs, qui, à mon avis, me semble souhaitable, indépendamment du syndicat des techniciens. Et il n'y a pas, malheureusement, de concertation. Les Américains, les Anglais, les Italiens ont ça.
Bien, il faut espérer qu'on va les suivre. Et je vous remercie d'avoir bien voulu venir ici, d'avoir parlé de ce métier. Et je rappelle que j'avais pour invité Pierre-William Glenn, qui est chef opérateur, c'est ça ?
Ou directeur de la photographie.
Ou directeur de la photographie d'un certain nombre de films, dont les deux derniers que j'ai vus, moi, c'était La mort en direct et puis Une semaine de vacances. Merci.
Merci.
Vous venez d'entendre Pierre-William Glenn dans Agora, au micro de Gilles Lapouge. Première diffusion, le 29 juillet 1980, sur France Culture.